Place Info.
Bonjour Jacqueline Gourault.
Bonjour.
Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, mis en examen cette nuit pour prise illégale d'intérêt, peut-il rester à son poste ?
Rien ne l'oblige à partir. Et peut-être rappeler qu'il y a déjà eu une première décision à la suite d'une première plainte de la même association, à savoir Anticor, qu'il y a eu une enquête, que cette enquête a été assez longue, environ 5 ou 6 mois, et que la justice, le procureur, a classé sans suite, c'est le parquet de Brest qui avait classé sans suite la plainte.
En jugeant que les faits étaient prescrits, depuis l'affaire a été dépaysée, 3 juges ont estimé le contraire hier, ils ont donc mis en examen Richard Ferrand.
Ils ont mis en examen Richard Ferrand, moi j'ai pas de commentaires à faire au nom de la séparation des pouvoirs sur cette décision. Et encore une fois, rien ne l'oblige, ni dans la loi, ni dans le règlement de l'Assemblée nationale, à quitter ses fonctions. Et comme tout personne justiciable, il bénéficie de la présomption d'innocence.
Quand vous dites, Jacqueline Gourault, que rien ne l'oblige dans la règle ni dans la loi à quitter ses fonctions, ça veut dire que c'est d'abord une affaire de conscience, une affaire de conscience personnelle, c'est à lui de faire ce choix ?
Non, je dis cela parce que c'est la vérité et que par ailleurs, encore une fois, il y a déjà eu une décision de justice, que c'est la même association qui cette fois a déposé plainte et s'est constituée partie civile et qui a engendré cette nouvelle ouverture de procédure.
Mais Jacqueline Gourault, Richard Ferrand, lors de l'ouverture de la première enquête, alors qu'il n'était pas même mis en examen, il avait fait le choix de quitter le gouvernement. Il ne pouvait pas être ministre à l'époque, il pourrait rester aujourd'hui président de l'Assemblée nationale alors qu'il est mis en examen.
Alors, parce que être ministre, c'est être nommé par l'exécutif. Quand on est parlementaire, on est élu par le peuple. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que Richard Ferrand a été réélu député de manière très large.
Vous voulez dire que s'il était ministre, Richard Ferrand, il devrait sans doute quitter ses fonctions, alors que le fait d'être parlementaire et président de l'Assemblée l'en oblige.
Je veux dire que d'abord, il faut mesurer qu'il y a il y avait autrefois une jurisprudence, qu'on appelait la jurisprudence Balladur.
Mais, un ministre mis en examen doit partir.
Voilà. Mais à cette époque-là, les gardes des Sceaux successifs avaient la possibilité, comme vous le savez, de donner des instructions individuelles au parquet, ce qui n'est plus le cas depuis 2013. Et donc, aujourd'hui, l'exécutif ne peut pas intervenir, si je puis dire, dans une situation personnelle. Et je rappelle par ailleurs que ce sujet, cette plainte est déposée pour quelque chose qui est strictement personnel et même pas personnel puisque c'est sa compagne.
Ça, c'est la justice qui en décidera.
Mais c'est la justice qui en décidera.
D'intérêt illégal, voilà. Il y a eu ou pas.
Mais le maintien à son poste, est-ce que vous ne redoutez pas, s'il reste à son poste, des conséquences politiques ou aussi dans l'opinion sur l'image qu'ont les élus dans le pays? On a vu au mois de juillet un ministre, François Drugy, démissionner pour des articles, pour des photos, mais sans même qu'une enquête soit ouverte, mais à cause de ce trouble justement de l'opinion. Si Richard Ferrand s'accroche à son poste, vous ne redoutez pas qu'il y ait des conséquences politiques assez importante.
Il y a d'autres personnes qui sont députées et qui ont été mises en examen.
Donc s'il y a un mauvais exemple, il faut suivre le mauvais exemple.
Non, c'est pas ce que je dis. Je voulais dire encore une fois, tout justiciable est présumé innocent, que Richard Ferrand est un président très estimé à l'Assemblée nationale et qu'il a toute la confiance du président de la République.
L'Élysée le soutient.
Comment ?
L'Élysée le soutient.
Oui, absolument.
Oui, ça, ce sont les éléments de langage qu'on vous a demandé de donner ce matin dans les
vous
médias.
Vous savez, moi, la nuit, je dors.
Nous aussi. Voilà. Mais l'Élysée, ce matin, je suppose, a inondé les portables des ministres d'éléments de langage en disant « il est soutenu, Richard Ferrand ».
Je n'ai pas vu cette phrase, mais je sais que Richard Ferrand a toute la confiance du président de la République.
Votre collègue Sébastien Lecornu accueille aujourd'hui 10 de maires qui ont été agressés ces derniers mois après la mort du maire de Signes dans le Var le mois dernier. Quel est le message que vous voulez leur adresser ?
Le message, c'est bien sûr le soutien de la République, mais je dirais que c'est un message général à toutes les agressions qui sont faites, parce que les maires sont agressés, mais les députés ont leur permanence cassée, les pompiers sont parfois caillassés, les policiers, les gendarmes, il y a une violence dans la société qui s'est développée. Alors évidemment, les maires, c'est enfin le maire est un personnage central dans la République. Il est dépositaire de la République et j'ai été maire pendant 25 ans. Je connais bien la fonction. Nous sommes au plus près de nos concitoyens et les concitoyens, bien sûr, ont une grande reconnaissance pour leur maire et sont très choqués des violences. Par exemple, ce maire dans le Nord qui a été attaqué à la tronçonneuse, il est évident que c'est quelque chose d'insupportable. Alors une loi arrive au Parlement au mois d'octobre, au début octobre, qui va renforcer les pouvoirs des maires dans le domaine de police administrative pour lutter contre ce fléau. Mais si c'est aussi un phénomène contre lequel il faut lutter, je dirais, sur le plan global. Et c'est un phénomène de déviance de la société.
Justement, Jacqueline Gros, je vous propose d'écouter le témoignage d'une mère, la mère d'Hiverdroit de Chanteloup-les-Vignes, Catherine Arnoux. Elle témoignait ce matin sur France Info. Elle racontait l'agression dont elle a été victime. Elle se rendait à une collecte de jouets pour une école de sa commune, une école qui avait été incendiée. On l'écoute.
J'ai reçu une première pierre, une deuxième pierre, une troisième pierre. La voiture a été caillassée. Je suis partie à pied et j'ai résisté parce que je suis allée au devant pour discuter parce que je ne comprenais pas cette violence. Et en fait, ça a duré une dizaine de minutes où j'ai été absolument caillassée.
Et pour répondre à ça, vous nous dites, Jacqueline Gros, qu'il faut une nouvelle loi.
Non, c'est pas, non, j'ai pas dit une nouvelle loi. Il se trouve qu'une loi était prévue pour des adaptations sur les compétences entre communes et intercommunalités. Et puis, un certain nombre d'événements sont intervenus, dont la mort du maire de Signes cet été, qui a profondément choqué, même si, vous le savez, c'était un accident, puisque...
L'affaire n'est pas encore tranchée.
Oui, mais puisque la voiture tout le monde sait que c'était un accident.
Caractère volontaire ou non n'est pas tranché par la justice.
Oui, c'est vrai, mais je suis allée, comme vous le savez, représenter le gouvernement aux obsèques du maire de Signes et les élus eux-mêmes et la population avec qui j'ai parlé reconnaissaient que sûrement que l'acte n'était pas volontaire, qu'il y a eu un accident avec le recul de cette camionnette et le maire qui était derrière. Donc c'est à l'occasion, puisqu'il y avait ce projet de loi, qu'il est donné des renforcements de la politique administrative dans la main des maires.
On va poursuivre sur ce thème pendant quelques instants. Si vous le voulez bien, on s'interrompt une minute à 8h40, puisque Lauriane Delanoë va d'abord nous résumer l'actualité de ce jeudi matin.
L'association Anticor demande sur France Info la démission de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale mis en examen cette nuit pour prise illégale d'intérêt, soupçonné d'avoir favorisé sa compagne pour une location commerciale quand il dirigeait les mutuelles de Bretagne. La porte-parole du gouvernement affirme ce matin qu'Emmanuel Macron garde toute sa confiance. Eux étaient devant des policiers, François Bayrou et Marielle de Sarnez, entendus en audition libre hier pour les soupçons d'emploi fictif des assistants parlementaires du Modem au Parlement européen. Ils sont sortis tard hier soir. Le président du parti centriste se dit très content. Enfin, on a pu faire valoir nos preuves, estime François Bayrou. Des camions bloqués pendant des jours dans des ports, des pénuries de certains médicaments et produits frais. Le chaos annoncé au Royaume-Uni en cas de Brexit dur sans accord fin octobre. C'est le scénario envisagé par des experts dans un rapport jusque-là tenu secret par le gouvernement britannique. Les footballeuses lyonnaises éclatantes en Ligue des Champions. Hier soir, l'OL l'emporte 9-0 face aux Russes de Ryazan en 16e de finale aller.
France Info. Et tout est plus clair.
Toujours avec la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, parmi les nouveaux pouvoirs que vous allez accorder au maire, il y aura celui de mettre des amendes, par exemple en cas de décharge sauvage, c'est le cas, c'est ce qui s'est passé à Signes dans le Var. Est-ce que vous craignez pas de faire des maires des policiers ?
Ah non, mais ça existe déjà. Mmh. Nous avons déjà cette capacité à le faire. D'ailleurs, je crois qu'il faut encourager les maires à le faire parce que parfois ils n'utilisaient pas cette police administrative. Ce qui est fait, c'est que c'est l'amende est renforcée pour dissuader ces dépôts sauvages qui sont un véritable fléau dans les communes.
Pourquoi est-ce que ces maires n'osaient pas ou ne l'utilisaient pas, comme vous le disiez à l'instant, justement de crainte, par crainte, de peur des réactions ?
Non, pas ça, mais d'une manière générale, les maires sont toujours assez conciliants et essaient d'expliquer, font de la pédagogie, parce que, vous savez...
Vous les incitez à être plus fermes aujourd'hui ?
Je pense qu'il faut, parce que il faut que l'exemple soit donné pour que les incivilités s'arrêtent.
Un maire d'une petite commune de moins de 500 habitants touche 558 euros bruts par mois, une centaine d'euros de moins en net. Est-ce que vous jugez que c'est suffisant ?
Non. D'ailleurs, vous savez, quand j'étais parlementaire, j'avais déjà travaillé sur ce sujet de l'indemnité des maires, parce que, dans le détail, je crois qu'il faut savoir que quand on vient d'être élu maire, le premier conseil municipal, vous votez la décision des indemnités des maires. C'est la première décision que vous avez à prendre. Et souvent, dans les petites communes, il y avait, je dirais, une tradition des maires qui n'osaient pas toujours prendre le montant de l'indemnité qu'il leur est possible d'avoir. Et déjà, moi, j'avais fait voter une loi pour que, si vous voulez, il y ait automaticité de la rémunération des maires et non pas obligation de passer par une délibération du conseil municipal. Et donc, dans le projet de loi dont il est question et que Sébastien Lecornu va porter devant le Parlement, nous proposons de laisser le choix aux maires et donc aux conseils municipaux de pouvoir jouer sur les trois premières strates de maires, si vous voulez, puisque, vous savez, c'est selon le nombre d'habitants, il
alors,
y a des strates.
Alors, c'est 658 strates. Euros pour les villages de moins de 500 habitants, 1200 euros, toujours brut, pour les villages entre 500 et 1000 habitants, et 1600 euros, un petit peu plus, pour les villages et les villes entre 1000 et 3500 habitants. On pourra donc choisir, ça c'est le conseil municipal
c'est
qui
conseil
choisira
municipal.
Ce qui permet des débats, parfois, à mon avis, un peu tendus. Quand un nouveau maire va arriver et va demander de passer de 600 à 1200 ou à 1600, ça passera pas toujours comme une lettre à la poste.
Il y aura débat.
Mais pourquoi est-ce que c'est pas l'État qui prend ces décisions ? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression, c'est une façon de fuir un peu les responsabilités de l'État, de renvoyer
la balle
aux
élus ? Non, parce que c'est.
On imagine bien que dans des communes de moins de 500 habitants, il va être difficile à un maire d'expliquer à ses conseils municipaux, je souhaiterais que mon indemnité passe de 658 à 1664 euros.
Je suppose qu'il y aura débat, mais ça, le système, parce que c'est prélevé sur le budget du conseil municipal, ces indemnités. Et donc, c'est normal que ce soit le conseil municipal qui décide. On peut pas à la fois demander le respect et la liberté, les libertés locales, et en même temps dire c'est l'État qui
mais
devrait.
Mais l'État pourrait augmenter
décider.
La fourchette, pourrait considérer qu'il est légitime que ces maires de petites ou moyennes communes soient davantage rémunérés.
Hein. Et pas soumettre ça au conseil.
Ouais. En proposant cela, ça veut dire que nous pensons que c'est légitime qu'un maire puisse gagner plus que ce qu'il gagne aujourd'hui. Et comme je viens de le dire, en tout cas, l'automaticité du minimum est garantie.
Jacqueline Gourault, de nombreux maires s'inquiètent également de la suppression annoncée de la taxe d'habitation et craignent de plus avoir d'argent, tout simplement, dans leur caisse. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ?
Eh bien, qu'ils ne s'inquiètent pas, puisque l'État pratique le dégrèvement, c'est-à-dire que l'État prend la place du contribuable et la commune sera remboursée à l'euro près. Et d'ailleurs, vous pouvez noter que après un an d'exercice, c'est-à-dire il y a déjà eu un tiers de la taxe d'habitation qui a été supprimée pour les contribuables, l'État a compensé intégralement par le dégrèvement.
Mais vous dites l'État prend la place du contribuable, mais l'État, c'est le contribuable.
Bien évidemment, l'État, c'est le contribuable, le budget national, mais en l'occurrence, pour la mécanique...
Ce qui signifie que la suppression de la taxe d'habitation pour les contribuables, elle sera compensée par d'autres prélèvements pour les mêmes contribuables.
Mais non, bien sûr que non, puisque c'est 17 milliards d'économies pour les contribuables. C'est l'État qui, sur son propre budget, dégrève et rembourse les communes du montant, alors ceci pour 3 ans, bien évidemment, le dégrèvement, c'est normal.
Donc on va creuser le déficit public.
Mais non, on va faire des économies en parallèle.
Qui ne sont pas budgétées pour l'instant, puisque cette suppression de la taxe d'habitation, elle est très progressive, et qu'on a gardé le plus cher pour la fin, c'est-à-dire la suppression de la taxe d'habitation pour les Français qui gagnent le plus, et donc qui payent le plus de taxes d'habitation. À quelle date, Jacqueline Gourault, plus aucun Français ne paiera cette taxe ?
2023.
2023, c'est-à-dire après Emmanuel Macron, enfin après ce quinquennat.
C'est-à-dire que progressivement, puisque c'est 3/3, le dernier tiers sera payé en 2022.
Mmh. Ouais, 2022
sera supprimé, pardon.
Sera supprimé. Le dernier. Donc on paiera encore. Sera... Les Français les plus aisés touchent paieront encore la taxe d'habitation en 2022.
Le dernier tiers, le dernier tiers payé sera en 2022. Non, le dernier. Je reprends.
Allez-y.
Le dernier tiers supprimé sera en 2022.
Donc on le paiera en 2022 ou pas?
Eh ben non, on paiera plus rien à partir.
Donc on paiera pour la dernière fois
et
en 2023.
Et à partir de 2023, et... voilà.
Le dernier tiers sera payé en 2021.
22. Oui, 21. Supprimé en 2022. Voilà. Oh là là.
Payé en 2022.
Voilà. Excusez-moi, hein, c'est un peu, voilà.
C'est un peu technique.
Il faut pas se tromper entre payé et supprimé. Voilà.
Voilà. Donc payé en 2021, supprimé en 2022. En ce moment même arrivent les avis de taxes foncières. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, il y a un certain nombre de contribuables qui s'inquiètent d'une hausse de la taxe foncière. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des maires qui sont tentés de compenser la suppression de la taxe d'habitation en augmentant la taxe foncière?
Non, ce qui s'est passé, j'ai bien vu les réactions qu'il y a eu, il se trouve que chaque année, il y a révision des bases locatives pour les bâtiments. Pourquoi? Parce que certains bâtiments s'agrandissent, vous construisez deux pièces de plus dans votre maison, et évidemment, la valeur locative... c'est comme cela tous les ans. Je peux vous dire que il y a eu à peu près 60 000 bâtiments valeurs locatives qui ont été réévalués cette année. Et ça depuis toujours. Ça n'a rien à voir avec
la suppression. Il n'y en a pas plus cette année que les années précédentes.
Non.
Il n'y a pas plus de réévaluation cette année.
Non.
Non. Et le chiffre global, vous nous
alors,
dites.
Alors la réévaluation, c'est compte tenu des évolutions
depuis 1970.
Non, je veux dire, chaque année, il y a des réévaluations quand vous demandez à la commune, vous déposez un certificat d'urbanisme qui montre que vous agrandissez votre maison, naturellement, ça déclenche une révision des valeurs locatives derrière. Alors après, ce que vous dites, c'est que les valeurs locatives n'ont pas été globalement revues depuis 1970, ce qui entraîne bien sûr des inégalités fortes, puisque
ça, il faudrait les faire aujourd'hui, non?
Est-ce
que cet impôt justement n'est pas aujourd'hui obsolète?
Et d'ailleurs, c'est prévu d'être inscrit dans la prochaine loi de finances pour que une politique générale soit mise en place de révision des valeurs locatives, et comme cela vient d'être fait pour les locaux commerciaux. Et les locaux, enfin, qui ne sont pas les habitations pour la population.
Dans un instant, Jacqueline Gouraud, on va parler de ce qui se passe en Corse et du projet des nationalistes qui veulent taxer, même surtaxer, les résidences secondaires des non-Corses, des continentaux. Vous rentrez de Lille, vous nous direz ce que vous en pensez. D'abord, le rappel de l'actualité à 9h10 avec Lauriane Delanoë.
Le président LREM de l'Assemblée nationale ne compte pas démissionner malgré sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Comment Richard Ferrand peut-il diriger les débats dans ces conditions, s'interroge le député Les Républicains Philippe Gosselin. Du côté du Rassemblement national, Sébastien Chenu affirme sur France Info que c'est à la majorité de trancher. Une semaine après ses discussions avec le patronat et les syndicats, c'est ce matin qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, va présenter le calendrier et la méthode de la consultation à venir sur la réforme des retraites. Une réforme qui inquiète les salariés de la RATP avec la fin des régimes spéciaux. Une grève très suivie demain à Paris en Ile-de-France sur les RER, tramways, bus et métro gérés par la régie parisienne. Toutes les prévisions sur notre site franceinfo.fr. Près d'un Français sur 5, 18% vivrait à découvert. C'est le chiffre du baromètre de la pauvreté en France publié par le Secours Populaire. Le manque d'argent et les privations n'ont jamais été aussi durement ressentis, estime la secrétaire nationale de l'association ce matin sur France Info.
France Info. Et tout est plus clair.
Toujours avec la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, et toujours avec Renaud Dely pour parler donc de la Corse.
Vous y étiez en fin de semaine dernière, Jacqueline Gouraud, en visite en Corse. La Corse est actuellement gérée par une coalition nationaliste au pouvoir, et ces nationalistes, pour lutter contre l'inflation des prix de l'immobilier sur l'île, ils proposent de taxer lourdement les résidences secondaires des continentaux. Ils exonéreraient de cette surtaxation les Corses, ou d'ailleurs les propriétaires qui ont un aïeul vivant ou inhumé en Corse. L'objectif que poursuivent les nationalistes, Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse, le résume. Écoutez, c'est très court.
Décourager ceux qui aujourd'hui, par la force de l'argent, sont en train de chasser les Corses de la Corse.
Cette surtaxation, ce serait une mesure constitutionnelle?
Non.
Vous lui avez dit?
Nous sommes en République, il y a l'égalité devant l'impôt. Non, je ne lui ai pas dit parce que je ne l'ai pas rencontré récemment. J'ai rencontré bien sûr Gilles Simonnier, le président de l'exécutif de Corse, mais je n'ai pas rencontré Monsieur Guy Talamoni. Mais le problème du logement en Corse est un vrai sujet.
Il l'est aussi dans d'autres régions, dans d'autres grandes villes. Oui. Mais vous y êtes donc clairement défavorable au nom de la Constitution, on vous
entend. Oui, bien sûr. Et ce qu'il faut, c'est travailler. Et d'ailleurs, nous avons un groupe de travail qui a été mise en place à la demande des élus de Corse, en particulier des maires et des intercommunalités, parce que il y a un certain nombre de contraintes en Corse. D'abord, c'est une île montagneuse, il y a la loi montagne, il y a la loi littorale, et puis il y a surtout aussi des problèmes de foncier, dans le sens où il est parfois difficile de connaître les propriétaires des terrains en Corse, et par ailleurs...
C'est plus difficile en Corse qu'ailleurs ?
Oui, parce qu'il y a un système sur les transmissions qui fait que il y a multiples propriétaires sur un même terrain. Et par ailleurs, il y a un organisme qui essaie de recenser tous les terrains, qui s'appelle le GIRTEC, mais c'est un lourd travail. Et puis, il y a une insuffisance, je dirais, de documents d'urbanisme dans les communes de Corse. Et souvent, il n'y a pas de carte communale ou de PLU. Et il y a donc un encouragement qui est fait pour que... eh bien, des documents d'urbanisme soient faits dans les communes, ce qui permettra de mieux gérer les politiques de logement.
Vous voulez dire, Jacques Nigrot, qu'aujourd'hui, en matière d'urbanisme, les lois de la République ne s'appliquent pas de façon satisfaisante en Corse ?
Je dis pas qu'elles ne s'appliquent pas de façon satisfaisante. En France, il y a, enfin, en France globalement, en Corse ou sur le continent, il y a aussi des communes qui n'ont pas de documents d'urbanisme, hein, et qui sont donc... qui doivent se conformer à ce qu'on appelle le RNU, c'est-à-dire le Règlement National d'Urbanisme. Et c'est un frein, souvent, au développement des communes et au développement de l'habitat. Mais, ceci dit, je suis allée, par exemple, à Porto Vecchio, où il y a une grande opération en rue.
Vous le dites avec l'accent corse.
Comment ?
Vous le dites avec l'accent corse.
J'ai appris.
Vous n'êtes pas tout à fait de cette région-là, hein.
Ah non, je suis pas honneur. Vraiment. Le Loir-et-Cher est un peu plus honneur.
Un peu plus honneur que la Corse.
J'ai donc visité tout un programme en rue qui est fait aussi à Porto Vecchio. Il y a des opérations comme il y en a à Bastia, comme il y en a à Bonifacio. Et donc, nous sommes dans une position plus idéologique que pragmatique.
Pas question d'accepter ce projet de surtaxation des résidences secondaires des continentaux. Vous le disiez à l'instant, qu'en est-il de l'autre, d'une autre revendication des nationalistes corses ? C'est la co-officialité de la langue corse qui serait, ils souhaiteraient qu'elle soit utilisée notamment dans les documents administratifs, dans l'administration, de la même façon que le français.
La République ne reconnaît qu'une langue, c'est le français. Alors après, le corse est une langue tout à fait... reconnue comme une langue régionale, et l'éducation nationale participe beaucoup avec des professeurs qui enseignent le corse, y compris dans des écoles primaires. Et donc, il y a un enseignement du corse en Corse, comme il y a un enseignement du breton en Bretagne.
Un dernier mot sur, on a commencé avec les affaires, on va finir avec elles si vous voulez bien. Jacqueline Gouraud, François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, que vous connaissez bien tous les trois. Vous avez longtemps été ensemble dans le même parti qui s'appelait à l'époque l'UDF, puis le Modem, ont été entendus hier dans l'affaire des soupçons d'assistants fictifs, ou présumés en tout cas au Parlement européen. Ils ne sont pas mis en examen, je vous propose d'écouter à la sortie le soulagement de François Bayrou.
Ça a pris un peu de temps, mais enfin on a pu faire valoir les preuves, parce que les preuves existent, en tout cas je le crois. Les preuves existent de ce que tout ça était un mensonge. Et donc, je suis très content de la manière dont cette journée s'est déroulée.
Est-ce que vous êtes soulagé, vous aussi, pour celui qui a été pendant très longtemps votre ami politique ?
Il l'est toujours.
Il l'est toujours.
Bien sûr, je crois que ce qui est très important, c'est qu'il ait été entendu, puisque cette histoire... ça fait 2 ans et demi que cela a commencé, et donc François Bayrou ni Marielle de Sarnez n'avaient jamais été entendus, et toute l'histoire n'existait que parce qu'on entendait dans les médias, bien évidemment. Et François Bayrou n'avait pas accès au dossier, ni vous ni moi, personne n'avait accès au dossier, puisque il n'avait pas été entendu. Je précise qu'il a été entendu librement.
Hein. Entendu librement, il n'est pas mis en examen, ça signifie qu'il pourrait revenir au gouvernement ?
Alors là, vous allez vite en besogne.
Mais il avait quitté le gouvernement au moment de l'ouverture de cette enquête, il pourrait revenir.
Oui, enfin, François Bayrou est maire de Pau. Il est très heureux et je pense qu'il a l'intention de se représenter à la mairie de Pau.
Voilà, Cyril Graziani, notre confrère de France Inter qui écoute l'émission, nous signale que vous n'êtes pas parfaite en prononciation des noms de ville corse, Cyril qui connaît très bien.
Mais je suis
Corse, il va falloir travailler encore
tout à fait disposé à ce que Cyril vienne me donner des cours de Corse.
Merci à vous Jacqueline Gourault d'avoir été prête à l'invité de France Info.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info, Paris, la bataille, le feuilleton des municipales, un nouvel épisode tous les vendredis, un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.